Bonjour à tous, en tout cas. On propose régulièrement des chants pour les enfants dans nos louanges, et on fait bien. C'est une chose excellente de les encourager à louer Dieu dès le plus jeune âge. On consacre aussi beaucoup d'énergie pour leur enseignement, et on fait bien. Quel privilège de découvrir Dieu dès sa jeunesse. On veut aussi donner une place particulière aux ados, et on fait bien. Il est primordial de les équiper face au monde qui nous entoure. Un groupe de dames aussi se réunit chaque mois, et on fait bien là encore, et je m'en réjouis. On fait aussi pas mal de prières et d'actions à l'intention des personnes qui ne connaissent pas encore le Seigneur, et là encore, on fait bien. Et ce matin, je propose d'enrichir encore la palette, déjà bien diverse, que je viens d'énumérer rapidement, en mettant l'accent, en mettant à l'honneur d'autres personnes encore. Et on va lire un psaume qui vous aiguillera vers celles et ceux que j'ai à cœur d'encourager particulièrement ce matin, mais pas exclusivement, bien sûr. Et c'est le psaume 71. On a lu pas mal de passages de psaumes ce matin, mais il y en a 150, donc on a de quoi en piocher des différences, sans problème. Le psaume 71. Éternel, je cherche en toi mon refuge, que jamais je ne sois confondu. Dans ta justice, sauve-moi et délivre-moi. Incline vers moi ton oreille et secours-moi. Sois pour moi un rocher qui me serve d'asile, où je puisse toujours me retirer. Tu as résolu de me sauver, car tu es mon rocher et ma forteresse. Mon Dieu, délivre-moi de la main du méchant, de la main de l'homme inique et violent, car tu es mon espérance, Seigneur éternel. En toi, je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. Je suis pour plusieurs comme un prodige, et toi, tu es mon puissant refuge. Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie. Ne me rejette pas au temps de la vieillesse. Quand mes forces s'en vont, ne m'abandonne pas. Car mes ennemis parlent de toi, et ceux qui guettent ma vie se consultent entre eux, disant « Dieu l'abandonne ». Poursuivez, saisissez-le, il n'y a personne pour le délivrer. Ô Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Mon Dieu, viens en hâte en mon secours. Qu'il soit confus, exterminez ceux qui en veulent à ma vie. Qu'il soit couvert de honte et d'opprobre, ceux qui cherchent ma perte. Et moi, j'espérerai toujours, je te louerai de plus en plus. Ma bouche publiera ta justice, ton salut chaque jour. Car j'ignore quelles en sont les bornes. Je dirai tes œuvres puissantes, Seigneur éternel, je rappellerai ta justice, la tienne seule. Ô Dieu, tu m'as instruit dès ma jeunesse, et jusqu'à présent, j'annonce tes merveilles. Ne m'abandonne pas, ô Dieu, même dans la blanche vieillesse, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Ta justice, ô Dieu, atteint jusqu'au ciel. Tu as accompli de grandes choses. Ô Dieu, qui est semblable à toi? Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs, mais tu nous redonneras la vie. Tu nous feras remonter des abîmes de la terre. Relève ma grandeur, console-moi de nouveau, et je te louerai au son du luth. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec la harpe, Saint d'Israël. En tes célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice, car ceux qui cherchent ma perte sont honteux et confus. Comme dans ma Bible, les vôtres ont peut-être un titre ajouté par les éditeurs pour ce psaume, et j'en ai trouvé plusieurs selon les différentes traductions de la Bible que j'ai. Certaines comportent « prière pour le temps de la vieillesse » ou encore « ne m'abandonne pas dans ma vieillesse » ou quelque chose de ce style. Je trouve que ça donne un peu trop l'impression que ce psaume est juste un psaume pour les vieux, mais c'est loin d'être le cas. D'autres Bibles ont plutôt comme intitulé « Prière confiante d'un vieil homme persécuté » ou encore « L'aide constante de Dieu de la naissance à la vieillesse ». L'aide constante de Dieu de la naissance à la vieillesse. C'est celui que je préfère comme titre. Vous aimez les psaumes ? Tous ne nous parlent pas de la même façon, mais ils sont assurément d'une grande richesse, d'une grande profondeur, et celui-ci, le psaume 71, n'est pas juste un psaume pour les vieux, mais un psaume qui manifeste en effet la fidélité de Dieu pendant toute la durée de nos vies, jusqu'à nos vieux jours. Et la fidélité de Dieu dure même bien au-delà de toute éternité, et pour encore toute l'éternité. C'est aussi un psaume qui rappelle combien nous sommes précieux, quel que soit notre âge, du plus jeune au moins jeune. Donc, je vous le dis en particulier, oui, chers aimés, vous êtes précieux, très précieux. Nous vous aimons, même si c'est souvent imparfaitement. On ne sait pas pour sûr qui est l'auteur de ce psaume. Le premier verset n'apporte aucune précision, comme ça peut être le cas dans d'autres psaumes. Mais beaucoup de commentateurs pensent cependant que l'éditeur du psautier a considéré le psaume précédent, le psaume 70 donc, comme étant une introduction à ce psaume 71. Et dans ce cas, l'auteur serait David, et ce psaume aurait déjà quelques 3000 ans d'existence. Je le trouve pourtant tellement à propos, tellement vrai encore aujourd'hui pour nous aussi. L'auteur est-il jeune quand il le compose et pense-t-il déjà à plus tard ? Ou est-il vieux et se remémore-t-il le temps de sa jeunesse ? Il est sans doute dans sa vieillesse, comme le laissent à penser les versets 9 et 18, en fait, que la version Sommer traduit même avec les expressions « en ma vieillesse » ou « maintenant que je suis vieux ». Oui, l'auteur de ce psaume est âgé et il considère sa vie comme un exemple. Certains hausseront peut-être les épaules en disant que c'était peut-être vrai pour lui, mais que c'est loin d'être le cas pour nous. Détrompez-vous. Certes, nous sommes différents de David, si c'est lui l'auteur. Nous n'avons pas fait les mêmes exploits, mais nous n'avons probablement aussi pas fait les mêmes erreurs non plus. Et en guise d'exemple, sa vie n'a de fait pas toujours été exemplaire. Mais Dieu, lui, est le même. Son Dieu est le même que le nôtre. Car bien plus qu'une mise en avant de sa vie personnelle, ce psaume est un témoignage solennel de la fidélité divine, immuablement fidèle, fidèlement immuable. Voilà ce qu'il veut aussi nous rappeler, simplement. Oh, je ne dirai rien d'extraordinaire ce matin, rien d'innovant, mais j'espère de doux rappels, des encouragements apaisants à regarder à Dieu chaque jour de notre vie, du premier jusqu'au dernier. Oui, cette prière émane probablement d'un homme vieillissant, et le psaume montre qu'il en est douloureusement conscient. Mais puisque Dieu a été avec lui depuis sa naissance, et même avant sa naissance, nous dit le verset 6, dès le ventre de sa mère, alors oui, il peut lui faire confiance. Dieu ne l'abandonnera pas à présent. Si Dieu avait voulu l'abandonner, il y a bien longtemps qu'il l'aurait fait. Il aurait eu de bonnes raisons de le faire, certainement. Rappelez-vous cela si à un moment de votre vie, vous avez cette fausse impression que Dieu vous abandonne. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas arriver, car Dieu est fidèle. Fidèle et encore fidèle. À ses promesses, à ses engagements, à son alliance. Ce que l'on peut noter en particulier, c'est que cependant cet homme en a vu de toutes les couleurs, comme dit une expression. Il a éprouvé bien des détresses et des malheurs, nous dit le verset 20. Bien des détresses et des malheurs que Dieu a permis. Que Dieu a permis. Comment ? Rendre Dieu responsable ou source de nos malheurs ? C'est pourtant ce qu'il souligne dans ce verset. Tu nous as fait éprouver bien des détresses et des malheurs. Tu nous as fait passer par des détresses et des malheurs. Et le tu, ici, comme dans tout le psaume, c'est Dieu, c'est l'Éternel. N'avons-nous pas souvent du mal à le comprendre, à l'accepter ? Et ce n'est pas facile, en effet. Si on vous dit un jour que la vie, et la vie avec Dieu en particulier, ne serait qu'une douce allée parsemée de pétales de roses, on vous aura menti. Pas besoin d'être grand devin pour le savoir. Non, la vie n'est pas toujours rose. Mais pourquoi ? Pourquoi Dieu ? Ne dit-on pas qu'il est aussi le Tout-Puissant ? Pourquoi Dieu permet-il ses détresses, ses malheurs et ses épreuves ? Ou même les causes ? A-t-il perdu le contrôle ? Vous remarquerez que ce psaume n'apporte aucune réponse à cette question. Alors j'ai une bonne excuse pour ne pas vous donner la réponse non plus, ce qui m'arrange plutôt bien, piètre pasteur que je peux être pour le moment. Car non, je n'ai pas nécessairement la réponse toute faite non plus, vous vous en doutez bien. Épreuve pour notre correction ? Peut-être. Peut-être que certains des malheurs du psalmiste sont de sa faute après tout. La conséquence de ses péchés. Oui, ça peut être vrai pour certains. On saute assez vite à cette conclusion, mais ce n'est pas une généralité. Épreuve pour notre sanctification. On le dit souvent. Et là, c'est certainement vrai, même s'il nous faut souvent du temps pour le réaliser. Ensuite, plus tard, bien plus tard. Car sur le moment, c'est assurément trop dur. Épreuves qui servent le plan plus large de Dieu. Un plan bien plus large souvent que notre simple personne. C'est souvent le cas aussi. Dans le livre des Actes, par exemple, la mort d'Étienne, le premier martyr chrétien, a été le point de départ d'une grande persécution de l'Église de Jérusalem. Elle a aussi été le point de départ d'une grande évangélisation dans la région et de l'expansion de l'Église, du salut de beaucoup. Oh, qu'il nous semble bien mystérieux ce plan de Dieu. Ne pourrait-il pas faire autrement, bien souvent, avec moins de détresse, avec moins de malheur ? Désolé, ce psaume n'apporte aucune réponse à ce genre de questions. Je pensais à beaucoup de monde en préparant ce message, et je pensais entre autres à Juanita, qui ne peut pas être là ce matin. Vous savez peut-être qu'elle s'est cassé le pied la semaine dernière, en ratant une marche, en visite chez des amis dans le sud de la France. Certes, ça la bouscule pas mal dans ce qu'elle avait prévu, ça la handicape dans ses sorties, voire même ça l'empêche carrément de sortir. Eh bien, ce qui lui vient spontanément à l'esprit quand on lui parle de ça, et vous la connaissez, elle ne dit pas ça pour se donner de l'importance ou faire semblant de faire bonne figure. Ce qu'elle retient, c'est qu'elle se réjouit d'être coincée chez elle. Elle se réjouit d'être coincée chez elle, car, dit-elle, ce sont mes amis de Thelon-les-Mimises qui viendront me voir chez moi. Et elle se réjouit parce que, chez moi, j'ai plus de liberté de dire les choses. En d'autres termes, elle pourra plus librement parler du Seigneur. Une épreuve, une entrave qui permet d'enlever d'autres entraves. Parfois surprenant le plan de Dieu, n'est-ce pas ? Oui, le psalmiste a connu ou connaît encore de dures épreuves, mais à cela il oppose ses nombreux souvenirs, souvenirs de la fidélité de Dieu et son espérance, espérance grandissante en Dieu qui a le pouvoir de renouveler sa vie. Fort de cette espérance, il sait que la vie, y compris la vie de celui qui place sa confiance en l'Éternel, est ainsi jalonnée de merveilles et d'épreuves. Et les deux, on l'a déjà souligné pour les épreuves, les deux, merveilles et épreuves, sont attribués au Seigneur. En effet, le psalmiste a bien conscience, et c'est aussi une source de confiance pour lui, c'est une source de sa confiance, que rien ne lui est survenu que Dieu n'ait permis ou voulu. Rien ne lui est survenu que Dieu n'ait voulu ou permis. Dieu est souverain. Qui est votre Dieu ? Qui est le Dieu que nous avons ? Qui est le Dieu que nous aimons ? Est-il pleinement souverain ? Ou réduisons-nous, consciemment ou inconsciemment, cet attribut qu'il possède parfaitement, ou d'autres ? Le psalmiste a certainement des choses à nous apprendre sur le fait d'avoir une juste image de Dieu, une juste compréhension de qui Dieu est et de ce que Dieu fait. On a déjà mentionné que sa vie n'avait peut-être pas été si exemplaire que ça tout à l'heure. Et pourtant, on pourrait avoir l'impression qu'il se vante, bon, peut-être pas qu'il se vante, mais en tout cas qu'il pense avoir eu une certaine fidélité depuis sa plus tendre enfance. Ne dit-il pas au verset 5 et 17 « En toi je me confie dès ma jeunesse, dès le ventre de ma mère je m'appuie sur toi, tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » Ce n'est pas un peu prétentieux ou exagéré de dire cela, un peu amnésique sur les creux de la vague qu'il a pu avoir ou les écarts qu'il a pu faire. Et encore, je trouve ce psaume est assez sobre en la matière par rapport à d'autres psaumes. Certains autres psaumes comportent même des phrases comme « Éternel, rends-moi justice selon mon droit et mon innocence. » Psaume 7, verset 8, un psaume de David. « Que ma justice paraisse devant ta face, que tes yeux contemplent mon intégrité. » Psaume 17, verset 2, encore de David. Plutôt gonflé. « Jamais je n'oserais dire et encore moins écrire ce genre de choses. » Pas vous ? Heureusement que Dieu ne juge pas selon mon droit ou selon mon innocence, plus que douteux parfois. Ou est-ce seulement culturel et pas choquant pour un hébreu de l'époque ? Ça ne vous a jamais choqué, vous, de lire ça dans les psaumes ? Quel manque d'humilité quand même, vous ne trouvez pas ? Et pourtant, le psalmiste le dit et l'écrit, et même c'est dans la Bible. La parole de Dieu pour notre exemple et pour notre instruction. Si c'est David qui parle, nous savons en effet, par d'autres passages des Écritures, qu'il n'a pas toujours été fidèle, pas toujours été intègre, et certainement pas toujours innocent. N'a-t-il pas été même adultère et meurtrier ? On fait mieux comme fidélité. C'est vrai. Mais au-delà de sa nature pécheresse, David a été fidèle et sincère dans sa contrition, dans sa repentance, dans sa demande de pardon, à chaque fois qu'il a eu conscience d'un péché dans sa vie, même si c'est d'autres parfois qui ont dû lui rappeler ou lui souligner. Et même il priait alors que Dieu pardonne les péchés qu'il ignorait. Et Dieu a été fidèle et juste pour le pardonner. Et il a alors pu et su revivre une communion pleinement rétablie avec Dieu. Pouvoir et savoir revivre une communion pleinement rétablie avec Dieu. Pour sûr, il n'avait pas une vision étriquée de Dieu, pas une vision incomplète de sa grâce, de son pardon, de sa restauration. Et cela lui permettait alors, Dieu lui permettait, non seulement d'écrire, mais aussi de vivre pleinement ce qu'il y a dans ces magnifiques psaumes que Dieu a conservés et transmis jusqu'à nous aujourd'hui, après 3000 ans, pour notre instruction, notre édification, notre encouragement. Qui est votre Dieu ? Qu'a-t-il fait pour vous ? Est-il étriqué, réduit ? A-t-il des limites ? Ou est-il souverain ? Est-il tout-puissant, y compris pour pardonner et restaurer ? Pourtant, cet homme connaît une nouvelle épreuve dont sans doute il se serait bien passé. Et ses allusions répétées à sa vieillesse, ses forces déclinantes, ses cheveux blancs, sont une sorte de discret rappel à Dieu pour lui dire « Eh, tu sais, l'épreuve, ça se supporte quand on est jeune, et déjà là, c'est difficile. Mais maintenant, à mon âge, en ma vieillesse, Ne me délaisse pas, quand je faiblis, ne m'abandonne pas. Maintenant que je suis vieux, que j'ai les cheveux blancs, ô Dieu, ne m'abandonne pas. Seigneur, ne m'abandonne pas. Le psalmiste demande principalement à Dieu de le protéger contre les attaques extérieures, maintenant qu'il est vieux et faible. Et les versets 10 et 11 nous font comprendre cela, quand il dit « Mes ennemis discourent contre moi, ceux qui m'épient ensemble se concertent, ils se murmurent. Dieu l'a abandonné, poursuivez-le et saisissez-le. Il n'est personne qui puisse le sauver. » Une telle prière est fortement logique si l'auteur de ce psaume est effectivement David ou un de ses descendants sur le trône de Juda. Une nation voisine n'aurait certainement pas osé attaquer Israël lorsque David était dans la force de l'âge, dans la quarantaine ou autre. Mais elle aurait certainement été tentée de le faire lorsque le roi atteignait les 70 ans. Mais même si nous ne sommes pas des rois, pour nous aussi, il est sage et bon de demander à Dieu une protection spéciale en vue du temps où la vieillesse et les infirmités de l'âge pourraient faire de nous des proies faciles. Pour les autres, ou même pour les décourageants Satan, ennemi de nos âmes qui s'ingénie à amener le doute dans nos cœurs et nos esprits. Lorsque nos forces physiques s'amenuisent, nous avons encore plus besoin de Dieu. Et nous constatons qu'il reste notre soutien, notre fidèle soutien. Oui, l'expérience compte, l'expérience de ce Dieu qui a déjà fait beaucoup compte grandement. Le fait de nous souvenir des bénédictions reçues nous aide à prendre conscience de la grâce de Dieu et lui faire confiance pour notre avenir. C'est en tout cas la recette du psalmiste. Vieillir, vieillesse. Ce n'est peut-être pas un sujet que l'on aborde nécessairement souvent ou de gaieté de cœur, même plutôt peut-être que l'on évite. Ça fait peur à beaucoup rien que d'y penser. Perte de vitalité, perte d'autonomie, perte de mémoire ou perte de lucidité même peut-être. Impression de devenir un poids pour les autres ou pour la société. Et ce n'est pas évident. Savez-vous qu'en Suisse, où malheureusement le suicide assisté existe, il est souvent demandé par les personnes, non pas à cause d'une souffrance physique excessive, mais parce qu'elles se sentent être une charge excessive pour leurs proches ou pour la société. Ça fait réfléchir. Mais qu'est-ce que j'en connais, moi, personnellement, de la vieillesse ? Je ne suis sûrement pas bien placé pour en parler. Et même avec les personnes qui sont âgées, il n'est pas facile d'en parler. Par respect, ou peut-être par peur d'accentuer des souffrances ou des questionnements déjà trop présents. Pas facile quand on n'y est pas, ou pas encore même de l'aborder de façon sérieuse ou réaliste pour soi-même. Pendant notre vie active, nous parlons volontiers peut-être de nous préparer à la retraite, mais comment nous préparons-nous à l'idée de vieillir ? Comment nous préparons-nous à considérer l'infirmité et même la mort ? Peu de gens discutent ouvertement et franchement de ces questions, sans en faire une idée fixe ou les refouler. Pas facile. Peut-être que ça se prépare de vieillir ou de bien vieillir. Et on peut tout d'abord noter que l'auteur de ce psaume prière semble avoir toujours vécu à l'ombre de la loi et des psaumes, car sa composition comporte des similitudes multiples avec d'autres psaumes antérieurs, le psaume 22, 31, 38, 40 notamment, qu'il s'est assurément approprié au cours de sa vie, après les avoir étudiés, médités, ou même composés peut-être pour certains si on parle de David. Voilà, les mauvaises langues diront qu'effectivement il se fait vieux et qu'il radote. Les autres, plus avisés, verront plutôt cette sagesse de repasser les choses de Dieu en son cœur. Sagesse de repasser les choses de Dieu en son cœur. Chose que Dieu nous recommande de faire avec assiduité et fidélité. Une bonne habitude dont on ne devrait pas pouvoir se passer. Que vous soyez jeune, un peu moins jeune, ou fortement expérimenté dans la vie, comment fortifiez-vous votre foi ? Qu'est-ce qui vous fait garder confiance ? Qu'est-ce qui nourrit votre louange voire même votre émerveillement peut-être. Et je pense qu'il n'y a pas d'âge pour se poser ce genre de questions. Quelle est votre recette ? Et pas une recette secrète, j'espère, car nous avons tous besoin de partager nos expériences et de nous encourager en la matière. Tous, jeunes et vieux. Et c'est effectivement l'objectif, ou un des objectifs de la vie communautaire, une des volontés de Dieu en créant l'Église. L'homme heureux trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et la médite jour et nuit, dit un autre psaume bien connu. On dit qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais si c'est une discipline que l'on a acquise dès sa jeunesse, c'est assurément un plus pour le temps de la vieillesse. Étudiez, méditez la parole dès maintenant, alors plus tard. Ces versets précieux, ces précieuses promesses divines, nous reviendront automatiquement à l'esprit et soutiendront nos cœurs et nos vies. Et pas seulement par un effet placebo, elles nous aideront à orienter nos regards vers le Seigneur. Nous serons en paix, même dans les circonstances difficiles. Et le psalmiste va même un peu plus loin que juste la paix, en concluant même dans les derniers versets de ce psaume, en une promesse de louange avec la joie sur ses lèvres et la joie dans son âme. La joie dans son âme. Oui, bien vieillir, ça se prépare, je pense. J'aimerais apprendre à vieillir appuyé sur la fidélité de Dieu qui nourrira ma propre fidélité. Tel était de toute évidence le désir du psalmiste, c'est le mien aussi. Et parmi les clés pour y arriver, on les dit souvent, il faut se laisser instruire dès sa jeunesse, se laisser instruire par Dieu toute sa vie, se laisser reprendre, se laisser conduire ou reconstruire, construire ou reconstruire. L'apôtre Paul disait alors avec assurance et certitude que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Philippiens 1:6. Le psalmiste s'attendait clairement aussi à ce que Dieu aille jusqu'au bout de l'œuvre qu'il avait commencée dans sa vie. Et là encore, c'est sa fidélité qui l'engage et Dieu ne revient pas sur sa fidélité. Bâtissons sur le roc, comme on le chante régulièrement pour les enfants. On l'a chanté dimanche dernier si vous étiez là. Enfant sur Jésus, viens bâtir ta maison. Et comme nous sommes enfants, de 0 à 99 ans, enfants de Dieu, et même au-delà, l'invitation nous concerne tous. Et nous pourrons tous et toujours dire comme le verset 3 de notre psaume, tu es mon rocher et ma forteresse. Et pour finir, un dernier aspect que je voudrais souligner encore, le regard du psalmiste se porte aussi au-delà de sa propre vie, au-delà de la simple protection de sa vie ou de ses vieux jours. Il souhaite vivre vieux pour pouvoir transmettre son témoignage à la génération qui le suit. Son but n'est pas juste de passer une retraite paisible et confortable, mais de mettre à profit ces dernières années, afin que j'annonce ta force à la génération présente, ta puissance à la génération future. Voilà une belle prière encore. Une prière qu'il vaut la peine de faire. Oui, chers aînés, vous êtes non seulement précieux, mais vous pouvez aussi être bien utiles. Des sources d'encouragement par votre fidélité, votre persévérance, votre endurance, votre souci des autres, vos prières, vos partages d'expériences. Et même lorsque les forces ne suffisent plus pour beaucoup de choses, nous pouvons demander à Dieu de manifester sa grâce dans notre faiblesse pour qu'il soit glorifié en nous. Oui, ainsi nous parlerons à tous du privilège de le suivre, ce bon Seigneur. Que ma vie te glorifie, on l'a chanté, que cela nous anime jour après jour. Et également en Église, en nous soutenant les uns les autres, nous formons cette famille en Christ. Que l'Église te glorifie, on l'a chanté aussi, que cela nous anime aussi jour après jour. Je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai. Saint d'Israël, en te célébrant, j'aurai la joie sur les lèvres, la joie dans mon âme que tu as délivrée. Ma langue chaque jour publiera ta justice. à Dieu soit la gloire pour sa fidélité. Amen.